Bonjour, je suis Frédéric Boilet, vous écoutez La Voix des Bulles.
Bonjour, je suis Ludwig Alizon et vous écoutez La Voix des Bulles.
Bonjour, nous sommes Anachronique et vous écoutez La Voix des Bulles.
Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui fait des bulles au calanque. Et voilà, on est au Festival des Calanques et des Bulles. Alors pourquoi on fait des bulles? Parce que la météo n'est pas super géniale. Je suis cette année accompagné de Thio.
Yeah, non, il fait très très beau. En fait, on a un très très beau ciel tout blanc et gris.
Et de Tizak.
Hello tout le monde.
Donc bah, là, on vient d'arriver. On va installer notre matériel pour enregistrer les conférences. On a plein de gens à voir, plein de choses à faire. C'est un peu le bordel. On va avoir notre premier One A Club public. Ça va être un peu bizarre.
Ouah, sensation. Où j'allais faire caca.
Voilà, il y a un petit stress. Et bah voilà, maintenant il faut qu'on décharge et qu'on installe et qu'on soit sûr de ne pas oublier le petit câble qui va nous manquer forcément.
Forcément. Ça, ce sera ta faute, Pierrick.
Nous sommes avec Corentin du projet Bablard, un projet artistique ambulant. Bonjour Corentin.
Bonjour.
Alors ton projet est assez particulier, tu te balades avec un gros van autour de l'Europe. Et qu'est-ce que tu fais?
En fait, donc j'ai commencé ce tour d'Europe il y a un an. Et donc je circule dans les pays, dans les villes, je rencontre des jeunes artistes et en fait quand je suis séduit par ce que font ces jeunes artistes, eh bien j'essaye de les promouvoir principalement en exposant et en vendant des reproductions de des œuvres de ces artistes, donc principalement en format carte postale.
Donc là ça fait un an que tu fais tout le tour de l'Europe, t'es passé par quel pays ?
Donc pas toute l'Europe mais une dizaine de pays, donc la France, l'Allemagne, Danemark, Suède, Finlande. Les trois Pays-Bas, donc Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Pays-Bas et Belgique.
Ça permet, j'imagine, de découvrir plein de choses sur la vie artistique de chacun des pays. Il y a des particularités en fonction des pays pour trouver les artistes. Comment est-ce que tu fais pour les rencontrer?
Alors les artistes, en fait, je les rencontre par hasard. C'est-à-dire que j'essaye d'abord de trouver en fait un lieu pour ouvrir mon camion au public. Et puis parfois il y a des gens qui viennent, qui visitent mon camion, qui sont séduits par mon projet. Et parfois ils me disent moi aussi je fais de la photo, du dessin, de la peinture. Et voilà. J'essaye de voir en fait ce qu'ils font comme travail. Et puis si ça me plaît, on essaye de voir ce qu'on peut faire ensemble.
Alors là, tu es venu dans la région pour Marseille-Provence 2013. Qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas te balader? Où est-ce que les gens vont pouvoir te trouver?
Alors en fait, j'ai eu l'autorisation d'être sur un camping artistique, écologique, à l'Estac, qui va se dérouler en fait de début mai jusqu'à fin septembre. Et donc ça va être en gros mon camp de base pendant ces 5 mois. Et puis je vais circuler un petit peu dans la région, en Provence. Je serai notamment pour la fête de l'Uvonne à Aubagne au mois de juin. Et puis voilà, je vais essayer de faire quelques festivals, quelques festivités sur la région.
Donc tu fais tirer des cartes postales des artistes qui t'ont marqué, tu les revends, et c'est ce qui te permet de financer ton projet, de faire tout ton voyage?
Voilà, c'est ça. C'est donc le projet est financé par la vente des travaux des artistes. Alors parfois en fait quand les artistes n'ont jamais imprimé, bien j'imprime moi-même, et puis parfois quand ils ont déjà imprimé, j'achète leur carte et puis après je les revends.
C'est pas trop galère des fois, j'imagine, ça doit pas être facile?
Si, c'est assez galère. La plus grosse difficulté, c'est de trouver des lieux où ouvrir, de trouver des festivals en fait où je peux ouvrir mon camion, ou avoir les autorisations de pouvoir ouvrir le camion et vendre sur l'espace public.
Et t'es tout seul dans ton périple, personne t'accompagne?
Non, je suis tout seul. Au début, en fait, ça ne m'aurait pas dérangé de le faire avec d'autres personnes, mais il n'y a personne qui a voulu le faire avec moi parce qu'ils trouvaient que c'était. Ils trouvaient le projet très sympa, mais par contre, pas très réaliste. Et voilà. Mais bon, ce qui me plaît aussi dans le projet, et ce qui plaît aux gens, en fait, dans le projet, c'est justement le fait que ça ne soit pas très réaliste et que ça soit un petit peu différent de ce qui se fait habituellement.
Et tu comptes voyager encore longtemps ?
En fait, là, je suis, on va dire, en cours de sédentarisation. Je suis venu en fait à Marseille. Je vais rester dans la région pendant quelques temps. Et puis après, je vais voir. Mais j'aime bien la région, donc je pense oui rester ici. Parce que c'est très sympa en fait d'être toujours en voyage, mais c'est aussi sympa d'avoir un pied à terre.
Mais c'est aussi peut-être parce que le camion, peut-être, ne pourrait peut-être pas en faire plus, non? Parce que tu as un vieux Citroën qui a quand même déjà, je pense, bien roulé. Et pas trop de panne, pas de galère avec ça?
Beaucoup moins que ce que je pensais. J'ai acheté le camion pour ce projet. Donc je l'ai acheté, il servait encore pour le transport des chevaux. Et voilà, donc je l'ai retapé un petit peu. Et puis je savais pas du tout combien de temps il allait durer, s'il allait durer 500 km ou 10 000 km. Et finalement là, ça fait 11 000 km que j'ai fait depuis un an. Et donc tout va bien. Enfin, je dis pas que j'ai pas eu de problème depuis un an, mais j'ai toujours, je suis pas un grand mécanicien, même pas du tout. Mais j'ai toujours rencontré des gens qui s'y connaissaient un petit peu, voilà, des fans de ce type de véhicule. Et j'ai des problèmes, mais bon, c'est aussi l'avantage des vieux véhicules, c'est qu'il n'y a pas d'électronique, pas d'informatique, et donc c'est pas trop difficile à restaurer, à retaper.
Le contact avec les auteurs, c'est assez facile de les intégrer au projet, où ils ont des réticences vis-à-vis de leur maison d'édition, peut-être parfois.
Alors en fait les artistes que j'ai, c'est aussi une volonté de ma part, ce sont des artistes qui sont pas connus. Donc il y en a aucun qui a une maison d'édition, et donc c'est aussi pour justement mon objectif, c'est de les faire connaître. Et donc voilà, il y a pas, c'est assez on va dire, c'est basé sur l'amitié, ou enfin pas sur l'amitié parce que je les connais pas forcément beaucoup, mais sur une relation de confiance. Et puis c'est pour ça que je préfère laisser faire le hasard, c'est-à-dire c'est d'abord des gens qui sont intéressés par le projet, et puis après voilà, on essaye de voir ce qu'on peut faire ensemble. Mais c'est pas des gens que je vais voir, pour la plupart, c'est pas des gens que je vais voir pour leur dire ah oui, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Donc voilà, c'est en gros donnant-donnant, ou enfin c'est gagnant-gagnant, on va dire. C'est pas vraiment basé sur l'argent, parce que moi j'en gagne pas beaucoup, et voilà, mais c'est pour essayer de les faire connaître à ma façon, enfin à mon échelle.
Nous voici toujours en direct du Festival des Calanques et des Bulles, pour la deuxième fois. Avec nous, Frédéric Boilet. Frédéric, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour nos auditeurs, une petite présentation rapide. On pourrait parler de votre naissance à Épinal en 1960, vos études aux Beaux-Arts à Nancy, une description de votre style graphique, vos liens avec le Japon, même s'ils sont passés, vos collaborations avec des auteurs français ou japonais eux aussi, vos ouvrages les plus connus, 3615 Alexia, Love Hotel, Épinal Yukiko, Mariko Parade ou Elle, que j'ai amené aujourd'hui. Bien sûr, la nouvelle manga et plein d'autres choses encore. Alors, la version courte, on pourrait dire que vous êtes une sorte de trait d'union entre la culture française et la culture japonaise, ou en tout cas, vous l'avez été. Une vision à la fois documentaire, romantique et très empreinte d'érotisme. Est-ce que cela vous convient ?
Oui, donc, pour ce qui concerne le Japon, on peut en parler un peu au passé, puisque finalement, j'ai quitté le Japon il y a 5 ans maintenant et j'ai tourné la page de toutes mes activités. Qui était effectivement, on va appeler ça trait d'union. J'ai essayé de montrer aux Japonais ce qui me semblait être le meilleur de la BD franco-belge à mes yeux. Et puis j'ai essayé de faire l'inverse, de montrer au public occidental, en France, en Espagne, dans les pays où j'avais les contacts, ce que la BD japonaise me semblait avoir de plus intéressant, de meilleur. Et donc, dans le registre qui m'intéresse le plus, qui est celui du quotidien. Voilà. Donc documentaire, oui, fictionnel aussi, autobiographique, mais en tout cas ce domaine du quotidien, de l'intime parfois, voilà. Donc érotisme, si la vie est érotique, oui, voilà, en tout cas le quotidien.
Votre actualité, vous venez présenter quelque chose en particulier au festival ?
Ah non, pas du tout. Parce que en tournant la page du Japon il y a 5 ans, j'ai aussi pris une première année sabbatique, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Donc là, en fait, l'année dernière, je me suis dit qu'il fallait que je commence à ressortir un petit peu du bois, parce que je vis vraiment dans un bois, là, depuis 5 ans. Je suis dans un petit village de 300 habitants. Donc j'ai quitté 30 millions d'habitants à Tokyo pour passer à 300. J'ai cultivé mon potager, etc. Bon, donc j'ai vraiment pris de belles vacances. Et puis l'année dernière, j'ai commencé à avoir de nouveau envie un peu. Enfin, il y a eu un mélange de besoins, d'envie. Bon, et voilà, je me remets un petit peu au travail. Et donc j'accepte de nouveau les invitations. Et donc me voici là, ici, au Festival de Lumini.
D'accord, très bien. En rentrant tout de suite dans le vif du sujet, en tout cas de mon point de vue, ce que je connais de votre travail, moi j'ai senti un très grand amour de la femme japonaise. Alors effectivement, dans son quotidien, dans la relation intimiste qu'il y a dans le couple, qu'est-ce qui a déclenché cette envie de parler notamment, principalement de la femme et de la femme japonaise en l'occurrence ?
Ben, j'ai vécu au Japon, donc. Pour votre information, au Japon, les femmes sont japonaises. Donc, le point commun, peut-être, de tous mes livres depuis 20 ans, c'est effectivement l'amour, en l'occurrence hétérosexuel, d'un homme, d'une femme. Et bon, il se trouve que j'ai vécu 18 ans au Japon, donc tout naturellement, les femmes de mes histoires étaient japonaises. Alors, au départ, évidemment, j'avais une espèce de fascination comme ça, puisqu'on est toujours attiré par la différence, parce qu'on ne comprend pas, mais ayant vécu au Japon, à partir du moment où j'ai commencé à parler japonais, ce que vous appelez la femme japonaise n'était pour moi pas vraiment japonaise, c'était juste une femme. Et la première des Parisiennes était beaucoup plus exotique pour moi que les femmes qui m'entouraient au Japon. Donc, j'ai bien sûr, dans certains livres, par exemple, l'apprenti japonais, je me suis amusé à faire des articles et des illustrations un petit peu humoristiques sur ce thème, la femme japonaise. Bon, en jouant justement sur les stéréotypes, en m'amusant avec, en les détournant. Mais il faut comprendre que ces illustrations étaient avant tout destinées à un public japonais masculin. Donc moi, ça m'amusait de dire aux garçons japonais qu'ils ne méritaient pas leur japonaise. Enfin bon, il faut des choses comme ça parce que je disais, le point, je disais, elles sont formidables, vous ne les méritez pas. Quoi. Bon, c'était un petit peu par jeu, par amusement. Au fond, les années passant, au départ, effectivement, par exemple dans Love Hotel ou Tokyo Mon Jardin, le français qui parle, mon héros est toujours français, puisque je prends grosso modo mon point de vue, hein, parle évidemment de ses premières impressions. Donc il voit dans l'autre une femme japonaise. Mais plus le temps passe, plus il finit par voir finalement une femme. Donc, voilà, le sujet, je pense, c'est les femmes plutôt, oui.
Oui, c'est la thématique de l'amour de la femme. Votre retour en France, ça vous a inspiré finalement la même chose, une envie de parler de la femme française, cette fois-ci, avec un point de vue peut-être d'un Japonais qui débarquerait en France ?
pas d'un Japonais, puisque, comme vous le savez, je n'ai pas réussi à devenir Japonais quand même, juste apprenti japonais. Non, non, pas la femme française. Mais bon, vous aurez quelques surprises là. Peut difficilement en dire plus, mais je suis sur un nouveau projet de livre. On part dans une autre région de la planète.
D'accord, très bien. Bon, on attendra ça avec grande surprise et grande envie. Le fait de rentrer dans le quotidien, dans une forme de réalité, c'est un besoin pour vous d'avoir cette base réelle pour arriver à écrire, peut-être des expériences même personnelles pour arriver à vous servir de base, ou l'imaginaire peut tout à fait prendre le pas intégralement dans la construction ?
J'ai toujours pensé... Moi, j'ai toujours pensé que le réel avait plus d'imagination que l'imaginaire. Donc, c'est ce qui m'intéresse, c'est les petits riens, la vie quotidienne. C'est ça que j'essaie de débusquer, de trouver. C'est les petits détails, les petits comportements, ces choses-là. Enfin, tout ce que, au fond, on a souvent très bien fait dans le cinéma français, hein, de la nouvelle vague. Au cinéma d'aujourd'hui, on sait dans le cinéma français, en comparaison par exemple avec le cinéma d'Hollywood, on sait parler des hommes et des femmes, c'est assez subtil, enfin ça dépend après du talent du réalisateur évidemment, mais par exemple dans le cinéma d'Hollywood, dans un film d'action grand public pour adolescents, quand arrive l'histoire d'amour en général, c'est quand même assez stéréotypé. Bon, ils ont un petit peu de mal, mais par exemple même dans le cinéma français le plus commercial, les scènes de relations entre hommes et femmes sont souvent traitées de manière assez fine. C'est quelque chose qu'on sait faire, hein, par culture, par tradition, etc. Or ça, dans les années 80, je le trouvais très peu dans la bande dessinée franco-belge. C'est pas un savoir-faire, mais enfin, cette sensibilité, je la trouvais très très peu. Donc, moi, j'étais attiré par ça. C'est donc, j'ai tout naturellement essayé de le faire un petit peu dans le désert au début. Et puis après, je suis allé au Japon et j'ai découvert qu'au Japon, là, en revanche, le quotidien, encore une fois, autobiographique, fictionnel, documentaire, reportage, etc., avait vraiment toute sa place. Donc c'est une des choses qui m'a retenu au Japon, c'est de voir qu'il y avait non seulement des auteurs nombreux qui s'intéressaient, qui avaient cette sensibilité-là, des éditeurs pour les publier, puis surtout des lecteurs pour les lire. Et puis donc du coup des lectrices, puisque j'ai pas d'explication à vous donner, mais dès qu'on parle du quotidien, ça intéresse un peu plus les filles que des histoires de héros musclés ou de guerre. C'est ce que j'ai essayé de faire. La manga, ma découverte du Japon et de la BD japonaise m'a aidé à affiner un petit peu tout ça.
Cette sensibilité, justement, cette quête de la sensibilité dans la production de vos ouvrages, est-ce qu'elle pourrait pas vous amener vers d'autres domaines? Vous avez pas mal utilisé la photographie en base, en repérage, un petit peu comme au cinéma, justement. C'est vous qui parliez de cinéma français. Moi, ça m'a donné cette impression-là, cette sensation de démarche assez cinématographique, très basée sur l'image. Est-ce que c'est pour capturer la lumière, pour capturer l'instant, pour capturer le...
Oui, plus j'ai avancé dans ce processus qui a pris quand même quelques dizaines d'années, dans l'épinard de Ukiko, il y a vraiment des scènes où je suis allé avec le modèle sur les lieux au moment de l'après-midi pour avoir tout. Parce qu'évidemment, si la lumière vient de droite et qu'elle est éblouie par le soleil, le modèle va avoir une réaction différente que si ça se passe dans une pièce éclairée avec une ampoule, par exemple. Et puis en plein jour, tout à coup, il va y avoir un moustique qui apparaît. Donc il va se passer des choses qui vont aller... Donc s'il y a un moustique, elle va essayer de le tuer. Je vous décris une scène de l'épinard du Kiko. Hein. Et donc toujours confronter l'idée qu'on a, qui n'est pas forcément mauvaise, mais la confronter avec la réalité. Et souvent, la réalité amène des choses complémentaires, voire même dirige vers d'autres choses tout à fait différentes. Quant à la question sur la photo, effectivement, la photo a toujours été... Enfin, la photo, la vidéo, plutôt. L'avantage de la vidéo, pour moi, était d'avoir les scènes en mouvement. Donc, ça me permettait d'être beaucoup plus fluide dans mon dessin après, et puis de capter des séquences, disons, plutôt que de capter des images fixes. Puis j'avais remarqué aussi que, très souvent, j'utilisais la photo ratée quand je prenais une photo, c'est-à-dire celle où le modèle se gratte l'œil, alors qu'il aurait dû poser, bref. Donc ça, avec une vidéo, c'est bien, parce qu'on a tout. Hein. Après, je sélectionne, et j'ai le petit détail, la goutte de thé sur les lèvres, après que le modèle ait bu à la bouteille, ou des choses comme ça. Donc oui, photo, vidéo, puisque vous me posez la question, et en fait, le prochain livre dont j'ai parlé à demi-mot est un livre de photos.
Ah, bien, petit à petit, on commence à grappiller quelques infos. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre collaboration avec Aurélia Horitas sur Vivi des Vosges?
Oui, Aurélia. Oui, donc Aurélia et moi avons vécu un temps au Japon, et puis donc fin 2008, comme je vous disais tout à l'heure, on a, avec elle, moi j'ai quitté définitivement le Japon, et on s'est installé ensemble dans les Vosges, dans un petit village. Et Aurélia faisait ses propres albums, moi je faisais le potager. Et sur la fin, on a eu cette envie. C'est venu d'un dessin qu'elle a fait. Et un jour, Jimmy Beaulieu, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur québécois, fameux et excellent dans le domaine alternatif. Jimmy Beaulieu faisait un séjour chez nous et ils s'amusaient tous les deux à dessiner. Elle achetait un jour ce dessin sur le papier d'une maman qui essaye à toute force de mettre une culotte à une petite fille en colère. Et donc j'ai dit, mais on va faire une BD avec ça, c'est trop drôle. Bon, et puis il se trouve que dans ma maison des Vosges, se sont succédées plusieurs familles quand j'étais au Japon. Enfin, je l'avais prêté, cette maison. Donc il y a beaucoup d'enfants qui ont grandi, qui ont passé les vacances et que j'ai finalement, après, dont j'ai fait la connaissance, des dizaines d'enfants comme ça, de 5 à 16 ans. Donc on pensait un petit peu à eux. Et donc, pour toutes ces raisons, parce que donc Vivi des Vosges, sur le... est un livre pour enfants, en fait. Donc c'est un petit peu en pensant à eux et sur la base de ce dessin qu'on avait envie de raconter l'histoire donc de cet enfant sauvage sur la en reprenant le mythe l'histoire de l'enfant sauvage qui est reprise par Truffaut d'ailleurs hein. Mais là c'est une fille, c'est une petite fille sauvage qui est capturée par des chasseurs et on l'emmène chez une nounou et la première étape c'est de lui mettre la culotte puisque elle est là et elle veut pas puisqu'elle a, elle a passé toute son enfance toute nue dans la forêt. Et donc, en fait, tout le livre raconte le processus de lente adaptation à la civilisation, dont la première étape, c'est de mettre une culotte.
Toujours dans cette idée de collaboration avec Aurélia Horita, vous êtes passé du coup de l'autre côté du miroir un petit peu, sous sa plume dans Fraises et Chocolat. Là, c'est plus vous qui vous mettiez en scène, c'est quelqu'un d'autre qui vous mettait en scène. Vous avez vécu cet épisode comment ?
C'est pas la première fois. Hein. Dans si on m'invite à un cosplay, je viens moi-même. Je suis un personnage de BD à moi tout seul, puisque en fait j'ai été dessiné dans plusieurs BD. Francis Kuntz, vous voyez le gars de Groland. Bah, bon, en fait c'est un dessinateur de BD. Il s'appelle Kafka en BD. Dans les années 80, il avait fait quelques petites histoires où on voyait ma bobine. Bon, Kan Takahama m'a dessiné dans Mariko Parade, puisque. Mais donc, on était. Je co-scénarisais avec elle, mais enfin, l'histoire et le. Voilà, et puis il y a eu ce prolongement avec Aurélia Horita. Voilà. Moi, je me suis dessiné dans mes propres histoires parfois, mais c'est un peu par défaut, parce que je m'avais sous la main. Je suis mon propre modèle, disponible 24 heures sur 24, c'est quand même plus facile. Et. Bon, dans Fraises et Chocolat, je suis un petit peu le capitaine ad hoc de l'histoire. L'héroïne, c'est quand même elle, et moi, je suis son faire-valoir.
Dernière petite question. Est-ce que vous parliez tout à l'heure de votre prochain livre. Vous utilisez la photo. Il y a d'autres prolongements possibles dans l'avenir qui sont envisageables, puisque là... bifurquer vers la photo, est-ce que la sculpture, parce que pour son côté un petit peu sensuel, description de la femme aussi, des courbes, vous pourrez vous intéresser, je parle ça comme exemple.
Là j'en ai absolument aucune idée, parce que bon, ce qui se passe c'est qu'après l'épinard de Kiku, que j'ai donc commencé à dessiner il y a 15 ans, qui est paru il y a 12 ans, 13 ans, j'ai quand même mis toutes ces années pour retrouver l'urgence vraiment de faire quelque chose. Bon, Mariko Parade, elle, j'ai publié quelques livres dans l'intervalle, mais c'était des livres qui étaient plus... soit des recueils de travaux antécédents, soit des livres plus faciles à faire quand même pour moi. J'ai quand même attendu, bon, 12-15 ans quoi, pour retrouver cette urgence pour faire un livre qui est celui qui va paraître, donc si tout va bien. On a l'éditeur, on a la date de sortie, enfin ça roule quoi, hein, mais je peux difficilement en dire plus parce que...
La date de sortie au moins ?
Bah, si tout va bien, ça sort en janvier, bon, mais si tout va bien. Ce qu'il y a, c'est que là, j'en suis vraiment au point où je me dis, si je sors ce livre-là, après, là, c'est fini. Je pense que je la bouclée. Ça sera mon livre ultime. Donc, il faudra peut-être que je fasse autre chose, de la sculpture, collectionner les timbres, trouver un truc, quoi, parce que là je peux pas me projeter au-delà de ce livre sur lequel je suis en train de travailler, qui m'a demandé quand même... J'ai mis 15 ans pour le trouver, ce livre, donc... Est-ce que j'aurai de nous... Combien d'années va falloir après pour que je retrouve encore cette urgence ? Je ne sais pas.
D'accord. Bon, ça fait un moment que maintenant vous êtes dans la sphère BD, justement. Vous pouvez considérer que vous arrivez à en vivre correctement et qu'il y a de la place encore pour de jeunes auteurs ?
Oh, il y a beaucoup plus de place pour les jeunes auteurs aujourd'hui que quand moi j'ai commencé, puisqu'il y a beaucoup plus de diversité chez les éditeurs. Dans les années 80, c'était tout différent. On avait quoi, 4-5 gros éditeurs et il fallait rentrer dans un moule d'une certaine BD pour publier, à part à suivre, qui était inaccessible ou Futuropolis, mais il n'y avait guère que ça. Quoi, hein. Mais
arriver à en vivre ?
Alors, après, bon, arriver à en vivre, les jeunes auteurs, bon, voilà, ça, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis un petit peu un électron libre à côté. Le Japon m'a rapporté beaucoup, beaucoup d'argent. C'est-à-dire que là, je me suis trouvé à publier un peu partout dans le monde, au Japon. Enfin bref, j'ai eu une période comme ça de 5-6 ans où j'ai gagné vraiment bien ma vie. Ce qui fait que là, comme je vous le disais, j'ai pu passer 4 ans à rien faire dans ma maison, juste cultiver mon potager. Donc je ne suis pas le mieux placé pour vous répondre, puisque j'ai eu, moi, une chance à un moment... sans jamais faire vraiment de vente, puisque j'ai jamais eu de succès populaire avec mes bandes dessinées, mais mes livres ont pu être traduits, par exemple Les Pinards de Clicquot est traduit en 9 langues, donc c'est pas des gros tirages dans chaque pays, mais voilà.
Le tout additionné.
Final, et si on prend soin de bien toucher 100% de ses droits et de ne pas se faire avoir par un éditeur ou un agent ou je sais pas quoi, on finit par... Bon, enfin moi, j'ai pas de problème financier. Si la question, c'était pour donner un conseil, moi j'ai toujours dit, tout le truc, l'astuce, c'est de tenir jusqu'à 40 ans. Après 40 ans, bon, déjà, il y a tous ceux qui ont lâché, qui sont partis... qui ont changé de métier, donc il y a moins de concurrents. Et puis on commence à avoir un réseau, on commence à connaître les gens. Donc je me souviens, j'avais dit ça, j'avais 25 ans, je me disais, il faut tenir jusqu'à 40 ans. Et ben, ça a marché pile. À 41 ans, je suis devenu riche.
Bien vu. Dernière question, vous lisez peut-être d'autres bandes dessinées, votre dernière découverte en bande dessinée ?
Oui, alors, quand je disais que j'avais tourné la page, j'ai aussi tourné la page de la BD. Hein, c'est-à-dire que j'ai pas lu là du tout de BD depuis 2008, sauf tout récemment, puisque je m'y remets un petit peu. Alors, je vais vous dire, la dernière BD que j'ai lue, c'est Mon meilleur ami, de Gabriel Dumoulin. Et puis, Ostitcha, de Iris. C'est une BD qui est parue chez Shampoing, justement, de deux auteurs québécoises. Ça m'a fait beaucoup rire. Iris et Sviane. C'est super, c'est vraiment très très drôle. Donc c'est le quotidien de deux voisins d'appartement, et l'histoire s'articule autour d'un chat qu'ils doivent garder, et puis c'est toutes leurs histoires, et c'est vraiment très très drôle.
Nous venons de passer à la douloureuse,
la carte bleue a chauffé, enfin si toutefois la carte bleue avait été prise, donc c'est les billets qui ont chauffé.
Donc on a fait nos courses, t'as choisi quoi dans tes courses, Thio?
La mémoire de l'eau et Barbuck et Biafine.
Alors moi j'ai foncé sur du Pochep, du Lécroard, et puis aussi un petit Fab Caro, ça a l'air bien sympa. Et toi de ton côté ?
Moi j'ai trouvé le Club du Suicide de Vaccaro, et puis j'ai pris un Fred Boilet et un Minal Rabin, contribution à l'étude du léger brassement d'air au-dessus de l'abîme. J'adore avoir ça dans ma bibliothèque, ça va faire super classe.
Tout un programme, bah, je pense qu'on va avoir des belles émissions en perspective, qu'on va devoir parler de tout ça. Nous sommes avec Silver. Bonjour Silver.
Bonjour.
Donc Silver, tu es un des co-créateurs du projet 17 mai avec Pochep.
Oui.
Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce projet ? Comment est-ce que l'idée t'est venue ? Comment est-ce que ça s'est lancé ?
Alors en fait, on a eu l'idée en 2011 avec Pochep, après la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai. Et on s'est dit en fait, ce serait bien de réunir plusieurs auteurs sur ce thème-là, en fait, les faire parler d'homophobie, transphobie pour sensibiliser les lecteurs. Et en fait, le projet était bien plus gros que ce qu'on pensait. Il y a plein de gens très motivés. Et on s'est retrouvé avec une centaine d'auteurs, d'illustrateurs, illustratrices. Et on a fondé le site le 17 mai 2012. Et là, on a eu un énorme impact. On a eu plein de retours. On a eu plein d'autres auteurs qui voulaient participer. Donc du coup, on a fait une mise à jour en septembre. Et maintenant, du coup, on a été contacté par la maison d'édition des Ailes sur un tracteur. Et maintenant, il va être publié pour sortir le 3 mai.
Il sort le 3 mai. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir ce 17 mai 2013, surtout qu'il y a pas mal d'actualités sur le niveau de la lutte contre l'homophobie, est-ce que vous avez prévu une mise à jour, quelque chose de neuf sur le sujet ?
On va essayer. Pour l'instant, on est pas mal pris justement par les expos, parce que là, au Calanque et des Bulles, justement, il y a des planches dans l'entrée, que vous avez dû voir. Et on a des expos un peu partout, à Clermont-Ferrand, on va en avoir une à Lyon aussi le 17 mai, on a eu à Grenoble aussi, on va essayer d'en faire d'autres. Et bon, du coup, il y a l'album qui a pris pas mal de temps. Et mais vu qu'on a reçu quelques participations déjà, on va essayer de faire une petite mise à jour dans ces eaux-là. En tout cas, oui, on parlera bien sûr du 17 mai, on essaiera de communiquer au maximum, oui.
Pour le projet de l'album, vous étiez passé par un Ulule, vous étiez passé par un site de crowdfunding pour le projet de l'album. Pourquoi ce choix-là ?
Tout simplement parce que c'est une petite maison d'édition, on n'avait pas beaucoup de moyens. C'était parce que tous les bénéfices vont à l'association SOS Homophobie, on ne prend aucun bénéfice sur l'album. Et donc du coup, pour le financer et pour réunir plus de fonds pour SOS Homophobie, on a fait un projet Ulule pour recueillir au moins 2000 euros. C'était vraiment la base pour partir sur l'album. On en a recueilli 14 000, donc c'était... Il y a eu un énorme engouement, donc c'était très bien. Du coup, on a eu, parce que c'était chaque don en fait amenait des précommandes, donc du coup on a eu beaucoup plus de tirages que prévu. On a pu faire un bel album, tout ça. Et donc, et du coup, ça fait pas mal d'argent aussi pour SOS Homophobie. On leur rendra le chèque justement le 3 mai.
pour tu m'as dit que vous avez eu beaucoup de participation, il allait falloir faire un choix pour l'album, c'était pas trop galère?
Ah si, justement, c'était horrible, parce que voilà, on adore toutes les participations, on nous a bien dit qu'on pouvait choisir voilà une trentaine déjà dans ces eaux-là, c'était une horreur, parce que voilà, on serait écoutant, on les aurait tous mis dans l'album, justement. On en a beaucoup parlé, ça nous a demandé pas mal de mois de boulot. On a essayé de faire un truc très varié aussi, qui pouvait parler donc d'homophobie, de lesbophobie, de transphobie, de pansexualité. On voulait vraiment toucher à tous les sujets pour essayer d'avoir un espèce de best-of du site, en fait. Mais avec l'album, on invite quand même les gens à aller sur le site où toutes les planches resteront, bien sûr, tout est en accès libre. Et il sera bien sûr mis à jour dans les mois, années à venir, je pense.
Vu le succès, on peut s'attendre à un tome 2
On verra, ça serait bien, bien sûr, parce que ça ferait toujours plus d'argent pour les associations. On verra comment ça évolue, on verra s'il y en a besoin aussi. J'espère qu'un jour, on n'aura justement plus besoin des projets comme ça.
Alors, toi, tu n'as pas d'album en dédicace ici, tu as une actualité au niveau album
Non, à part le projet 17 mecs qui m'a pris pas mal de temps, donc il y a rien. Il y a mon webcomic que je gère avec ma scénariste Nine, c'est les Chroniques du Canapé. Et puis sinon, je me focalise vachement sur mon blog, sur quelques illustrations, j'essaie de progresser. Et puis dans les mois à venir, je vais essayer de commencer sur un vrai projet d'album personnel, vraiment.
Merci à toi, on va aller jeter un œil à l'expo qui a l'air bien sympa et on te revoit pour les rencontres débat
à 14h. À 14h, il y a une rencontre débat sur la BD comme média d'engagement.
Ok, bah merci beaucoup, à plus tard.
À plus tard, merci beaucoup.
Toujours en direct donc, du Festival des Calanques et des Bulles, en ce dimanche toujours pluvieux, pour un bon festival. Nous recevons donc Ludwig Alizon. Petite présentation rapide de toi, tu me dis si j'ai fait des boulettes. A priori, tu es dessinateur donc, de Ogre, où il y a déjà eu donc, deux tomes de parus.
Tout à fait.
De Barbuck et Biafine, où là aussi deux tomes sont parus. Et tu as été dessinateur aussi sur Travis, le tome 6-2. Quelle est ton actualité actuellement?
Actuellement, je travaille sur la suite de Ogre, donc le tome 3, scénarisé par Iggy et Alouette, et qui devrait paraître d'ici, on va dire, un an, parce qu'il y a un petit peu de retard. Là.
Et est-ce qu'on aura un prochain tome de Barbuck et Biafine?
Alors non, il n'y aura malheureusement pas de prochain tome de Barbuck et Biafine, parce que l'éditeur a décidé d'arrêter la série. Pas assez de ventes sur le tome 2, et du coup, c'est la dure loi de la bande dessinée.
C'est dommage parce que c'était quand même original d'avoir l'amitié entre le dragon qui garde le donjon et la princesse. L'idée, vous étiez venu à peu près comment?
À la base, Barbuck et Biafine, on travaillait je travaillais à l'époque avec mon colocataire parce qu'il était lui plus travaillait à l'origine dans l'audiovisuel. Et puis en me voyant faire des bandes dessinées, et puis en discutant, à l'époque je faisais des boulots de commande un peu pour des boîtes de communication, des choses comme ça. Et on s'est dit, quitte à faire n'importe quoi, autant le faire nous-mêmes. Et pour le coup, on réfléchit lors de longues soirées, alcoolisées ou pas, à qu'est-ce que ça pourrait être un projet qu'on ferait tous les deux. Et puis moi, j'avais cette idée-là de prendre un postulat assez simple, mais de tordre un peu le propos, de façon à ce qu'il y ait une princesse dans un donjon avec un dragon devant la porte, mais que pour une fois, en fait, ce soit pas forcément une situation qui est subie, mais qui est plutôt choisie. Et puis forcément, à partir du moment où on tord un peu le truc, tout devient rigolo. Et au final, au début, on pensait vraiment raconter l'histoire de chevalier qui venait pour libérer la princesse, qui avait absolument pas besoin d'être libérée et qui se faisait flinguer. Et puis petit à petit, c'est devenu simplement de raconter le quotidien de ces deux personnages-là. Et puis à partir du moment où le principe était suffisamment rigolo, tout devenait drôle, parce que forcément le quotidien d'un dragon et d'une princesse, la cohabitation, tout ça, il y avait matière à faire des gags, quoi.
Au niveau de Barbuck, il n'y a pas eu un petit problème d'anatomie, parce que j'ai l'impression que son ventre a poussé plus vite que ses ailes, non?
Alors, disons que effectivement, comme il ne subissait pas du tout les situations, je pense qu'il a été bien nourri, parce que Biafine lui apportait beaucoup de chevaliers, ce qui fait qu'effectivement il prend un peu de poids en fonction des gags, et ses ailes, non, il a parti d'un principe dans le design de base, c'est de se dire, parce qu'il y a eu plein de versions de Barbuck, mais au début avec des grandes ailes et tout, puis là on était sur une série gag, donc on pouvait pas non plus varier trop les plans, parce que le gag nécessite aussi quelquefois un même cadrage, des choses comme ça. Et puis du coup, à partir du moment où c'est beaucoup les questions des enfants, en fait, comment il fait pour voler avec des ailes comme ça, En même temps, c'est un dragon, quoi. C'est, il est, à partir du moment où c'est magique, il vole, quoi. Un dragon, mais je pense qu'un dragon, même sans ailes, doit pouvoir voler, quoi. Il n'y a pas de problème.
Pour venir donc sur cette autre série, est-ce que tu vas poursuivre sur Travis un nouveau one shot ou une autre
Alors non, Travis, c'était vraiment, ça a toujours été prévu comme ça. Enfin, moi, ça a été mon premier album complet BD, et le but, c'était de faire vivre. En fait, le scénariste avait comme idée de faire vivre son aventure à un personnage qui est un peu secondaire, mais qui était devenu très important dans la série, Vladimir Key. Et puis, en même temps, il voulait pas proposer ça au dessinateur parce qu'il travaillait lui déjà sur la série. Donc là, ça a permis de faire un petit crossover en fait avec ce personnage-là qui faisait en plus avancer vraiment l'énigme globale du truc. Et puis, ça a permis de sortir deux tomes à 6 mois d'intervalle, ce qui était bien et sans faire perdre de temps à la série principale, quoi.
Alors donc pour parler de ta troisième série Ogre, dont le dernier tome est sorti je crois l'an dernier, le tome 2, pourquoi le choix, on va dire que pourquoi le choix des ogres, parce que normalement c'est un peu le personnage on va dire le personnage qui fait peur dans les histoires, là ça reste quand même le personnage un peu le plus important, on va dire, de votre nous, enfin cette histoire là
bah, en fait là pour le coup c'est vraiment le choix des scénaristes Iggy et Alouette qui voilà, eux avaient cette histoire d'ogre. Là encore, en fait, on parlait tout à l'heure de Barbecue Biafine, en détournant quelque chose, il suffit juste de changer un peu le point de vue ou un principe de fonctionnement. Là l'idée c'était qu'effectivement les ogres qui sont d'habitude perçus comme des espèces de monstres un peu, bah, étaient tout l'inverse, c'est-à-dire des gens très cultivés qui avaient une petite tendance à manger les humains, mais c'était un petit peu leur seul défaut presque, parce qu'à côté de ça, voilà. Et du coup, effectivement, ces ogres qui dominaient un petit peu ce monde se sont fait renverser par les humains, aidés d'une magie noire, entre guillemets. Et pour le coup, les humains ont pris le pouvoir, on s'est rendu compte que c'était pas forcément, enfin, ils avaient aussi quelques défauts qui étaient jusque-là imputés aux ogres, mais qui étaient très présents aussi dans la race humaine, surtout quand elle atteint comme ça le pouvoir, et puis en plus qu'elle peut être aidée par la magie et tout ça.
Ta technique de travail, en fait, comment est-ce que tu crées tes planches? Tu es assez classique ou tu travailles qu'en numérique?
Alors, sur le dessin, moi je travaille maintenant que au numérique depuis même avant Barbecue Biafine. En fait, j'ai fini à la fin de Travis. Après, je suis passé directement à la tablette. Et pas une grosse tablette comme on en voit maintenant, très futuriste, là, les Cintiq, mais vraiment une toute petite tablette bambou. Et puis, j'ai gardé. Alors, elle a évolué depuis parce que entre le premier modèle de la bambou et puis celui qui sort tous les ans maintenant, j'ai une tablette un petit peu mieux, mais ça reste la tablette d'entrée de gamme de chez Wacom, qui fonctionne très bien. Je suis très content.
Est-ce que tu vis de tes bandes dessinées ou est-ce que tu as un autre travail à côté?
Non, je vis de mes bandes dessinées depuis près de 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant, ouais. Donc ça se passe bien. À côté, on fait un petit peu de travail de communication, des choses comme ça, mais principalement, quand je me mets au travail, c'est principalement pour de la BD, quoi.
Le travail de commande et le travail en collectif, donc quand tu es qu'illustrateur et pas forcément scénariste, c'est quelque chose qui te convient, te gêne, tu te sens parfois bridé en termes de liberté, tu aurais envie de bouger des choses dans le scénario, mais c'est pas ton scénario, ou à l'inverse, tu te sens un petit peu à l'aise, c'est assez confortable finalement de suivre une équipe aussi.
Moi je me sens assez à l'aise avec ça, parce que justement ça permet de bien répartir les rôles, c'est-à-dire que quand tu reçois le scénario, je reçois un premier découpage en plus case par case, pas dessiné mais vraiment avec des cases indiquées, ça te prémâche le travail et tu peux te concentrer seulement sur le dessin. Le tout est de choisir des scénaristes avec qui tu t'entends et dont t'aimes le travail, de façon à ce que les questions sur le scénario ne t'appartiennent pas. Enfin, je pense qu'il y a des dessinateurs qui ont envie de s'impliquer, moi c'est pas quelque chose... Chacun son boulot, et là pour le coup, les scénaristes, je leur fais confiance, ils savent faire. Donc moi je suis à leur service, et puis j'ai suffisamment de questions à me poser sur le dessin pour pas m'encombrer l'esprit avec d'autres questions sur le scénario. Ils font ça très bien, et enfin, en tout cas, je trouve leur travail très bon. Donc.
Chacun son boulot.
En ce moment, il y a un grand chamboulement, un grand débat autour de la BD numérique. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se fait autour de la BD numérique, des nouvelles formes de narration, des nouvelles formes de diffusion, des nouvelles formes de paiement des auteurs. Est-ce que tu as un point de vue là-dessus? Est-ce que tu en lis, toi, de la BD numérique aussi?
Moi, je lis pas. Je lis des blogs. À la rigueur, c'est ce qui peut se rapprocher le plus de la BD numérique. J'ai pas trop suivi le truc sur la BD numérique. Je vois pas, moi, le. Je trouve pas ça très pertinent, les adaptations qu'il y a pu y avoir. Je trouve la BD, justement, quand on en fait, on sait que c'est. On crée pas les cases au hasard et tout ça. C'est vraiment fait pour un médium qui est le papier, qui est le livre. Je pense qu'il y aura des choses, des façons de raconter numériquement, que ce soit avec les tablettes, les choses comme ça. Pour moi, ça peut pas être de l'adaptation d'un bouquin. Donc à chaque fois, ce que j'ai pu voir, en tout cas, j'ai pas bien saisi l'intérêt. C'est-à-dire que on se retrouve quelquefois avec des cases qui étaient toutes petites qui deviennent grandes parce que conviennent au format. Enfin bref. Mais par contre, je pense qu'il y aura moyen de créer des albums. Mais pour le coup, il faudrait qu'ils soient créés dès le début pour ces médias-là, quoi.
Quelle est ta dernière découverte en bande dessinée? Dernière BD qui t'a vraiment intéressé, enthousiasmé? Même quelque chose d'ancien, peut-être, que t'as redécouvert dernièrement?
Dernièrement, j'ai relu du Loisel. Moi, je suis venu à la bande dessinée un peu avec lui. Et c'est vrai qu'à relire, c'est toujours aussi bon. Donc voilà, ouais, je vais faire. C'est pas très très moderne, hein, mais je lisez du Loisel, enfin les Peter Pan, la quête de l'oiseau du temps, tout ça. Ça a pas vieilli, quoi, enfin c'est super.
Bah, surtout que là, ils ont ressorti en plus une intégrale, je crois, de la quête de l'oiseau du temps, non?
Il y avait une intégrale qui était pas disponible et qui me semble. Et ils ont ressorti chez France Loisirs, alors qu'elle est plus disponible ailleurs, ils sont très très forts chez France Loisirs.
Et ben voilà, c'est terminé, merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.
Alors on est en pleine petite pause, on s'est glissé au milieu du match d'impro, donc on a des équipes d'acteurs qui se battent et des dessinateurs qui dessinent. Et puis, oh, du public, Sandrine. Bonjour Sandrine, qu'est-ce que tu fais à ce festival?
Bonjour, je viens découvrir des auteurs de nouvelles BD et avoir des dédicaces et découvrir un match d'impro assez sympathique aussi.
Ouais, tu passes un bon moment, tout se passe bien?
Oui, très très bien, vraiment.
Ok, tu t'es fait faire des dédicaces de qui?
De Di Martino, de Dave, de... Je me souviens plus le nom, l'auteur des Frangines aussi.
Margot Dillon.
Voilà, Margot Dillon. Et voilà, ils ont été tous super, de Doma aussi, voilà. Et de...
Martin Wittberg.
Voilà.
Ok, bah, j'espère. Tu reviens demain ou c'était juste la journée, là, tranquille?
C'était la journée, tranquille.
C'est déjà une belle journée.
Oui, on est avec des enfants qui se régalent aussi, mais qui... voilà, il y en a pour tout le monde, je pense, mais ça leur suffira aujourd'hui, quoi.
Ok, merci beaucoup. Bon, et vous, ça se passe bien, Théo?
Une bonne et longue journée. J'ai pas vu les auteurs que je vais interviewer, moi, donc ce sera demain.
Voilà, ou ce soir à l'apéro, on verra. Voilà. Bon, là, vous avez vu, il y a de l'ambiance, hein, il y a du bruit, c'est cool. Ah ouais, il fuit, genre il fait parler le public de la personne qu'il connaît, genre, hein, t'as vu. Et ensuite, il se casse pour pas parler au micro. Oh, la honte.
Mais en même temps, le mari de Sandrine était notre client mystère de l'an dernier. La personne qui était venue interviewer, elle dit, oh, bonjour, alors le festival des Calanques et des Bulles. Alors en fait, on vous ment, on vous fait croire qu'en fait, on interviewe des gens au hasard, mais en fait, non, on fait que nos amis.
D'ailleurs, on n'interviewe pas de vrais auteurs de BD, c'est que des amis à nous qui jouent le rôle.
Exactement.
Ils sont forts, hein.
Ouais, là franchement, celui qu'on a trouvé qui nous faisait le truc en vectoriel, c'était de la bombe, parce qu'on a la vidéo, c'est un truc de malade.
En tout cas, c'est bien passé, hein, notre premier truc en public, hein.
Ouais, beaucoup de stress, mais finalement, ouais, ça se tourne, quoi, hein, c'est sympa.
Puis un bon client avec une belle voix.
Tout à fait, une belle voix de radio.
Super. Bon, allez, on y retourne. Ouais. Je suis avec David et Richard du French Geek Movement. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc avec un nom super dur à prononcer?
Le French Geek Movement, c'est une association qui est donc basée sur la région PACA, ex-Marseille, qui a pour activité principale la promotion de tout ce qui est univers science-fiction, comics, BD, séries télé, jeux vidéo. Ouais, c'est un nom un peu bizarre, ouais, j'avoue, c'est pas de ma responsabilité le nom bizarre. À la base, c'est une idée lancée un petit peu comme ça, peut-être. On a tâté le terrain avec une page Facebook, Et moi, de mon côté, j'étais surpris par la vitesse et l'ampleur que ça a pris. Voilà, tout simplement. Après, peut-être que toi, tu...
Alors, oui, donc c'est promouvoir la science-fiction et le fantastique, l'imaginaire d'une manière générale, donc à travers les différents médias qu'a cité David. Donc le but, voilà, c'était de créer une dynamique locale pour qu'il y ait des rencontres IRL, on peut dire, in real life, entre les passionnés et les geeks. Donc on a commencé par créer une page Facebook, donc qui a maintenant en 6 mois à peu près à plus de 500 personnes qui la suivent. Et on a créé des événements, donc on a commencé par un partenariat avec Urban Comics pour faire des événements en librairie pour promouvoir des sorties de comics. Donc on a commencé par Swamp Thing tome 1 en novembre dernier, et puis après on a fait Justice League Crise d'identité en début d'année en janvier 2013. Et donc après, on a passé un peu l'étape au-dessus, puisque pour la sortie du tome 2 de Swamp Thing, on a fait venir le dessinateur Yannick Paquette, dessinateur canadien de comics, qui est très connu puisqu'il travaille avec les plus grands auteurs, Scott Snyder, Grant Morrison, entre autres. Et donc, suite au Lille Comics Festival, il est descendu dans le sud de la France. Voilà. Justement, la plupart des événements en France se passent soit à Paris, soit à Lille, mais plutôt dans la partie nord. Et donc, on voulait commencer à initier un petit mouvement vers le sud, voilà, en faisant venir des auteurs, des dessinateurs. Donc voilà, donc ça a été un bon succès, hein, puisqu'on a eu du monde en continu dans les librairies. Yannick Paquette était très content de son séjour. Et donc voilà, c'est une expérience à renouveler. Et donc maintenant, on intervient aussi, on essaye d'un peu d'être présent dans les festivals. Et là, par exemple, ce week-end, on a fait le Lord of the Geek, un festival à Nîmes. Et donc on a fait une conférence sur l'heroic fantasy au cinéma. Et là aujourd'hui on est présent donc au festival des Calanques et des Bulles, et on fait une conférence sur Iron Man
en lien avec la sortie du troisième film.
Voilà, tout à fait, Iron Man 3 qui est sorti mercredi là, donc on surfe sur l'actualité, on essaye au plus possible tout le temps d'être sur l'actualité.
Ok, vis-à-vis, je vais me concentrer sur le côté un peu BD parce que c'est celui qui nous parle. Donc vous concentré principalement sur la BD américaine, vous avez une thématique très geek. Pourquoi avoir mis de côté la BD, je dirais, européenne et la BD asiatique? C'est parce que c'est des domaines que vous maîtrisez pas et que vous connaissez pas?
Disons que si on la connaît peut-être moins bien, effectivement, on est peut-être plus spécialisé dans les comics, en tout cas nos centres d'intérêt. Après, les événements pour faire venir des auteurs franco-belges sont quand même déjà assez nombreux en France. Et par contre, le comics est beaucoup moins développé. Donc voilà, on voulait plutôt essayer de favoriser ce domaine-là où il y a du travail à faire.
Ok, vous avez prévu quoi comme prochains événements dans la région?
Vas-y, je sais pas si t'as les dates en tête, là, c'est Palabas, on a parlé de Palabas, effectivement, participer là-bas. Alors après, je sais pas les thèmes qu'on veut aborder là-bas, on en a pas trop discuté. Il y a vraiment cette idée, on essaie vraiment de rester sur l'actualité. Donc là, effectivement, on est sur Iron Man, parce qu'elle a sorti, mais jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est calé sur le rythme de parution d'Urban Comics. On prenait les, voilà, comme il a dit Richard, soit la JLA, la crise d'identité, ou la sortie du relaunch de Swamp Thing. Ça permet d'attirer du monde. On est en relation effectivement avec Urban Comics, qui ont été jusqu'à présent très compréhensifs. Ils nous ont jamais trop suivis. Du moins la personne qui devait venir n'est jamais venue. Mais après, pour tout ce qui est obtention de lots, quand on fait les jeux concours, tout ça, on n'a jamais eu de problème avec eux. Panini, par exemple, c'est un peu plus compliqué avec Panini, effectivement. Voilà, l'idée, c'est de rester sur l'actualité. En plus, on a énormément de chance puisque Marvel au cinéma cartonne. Ça ramène beaucoup, beaucoup de gens. Pas forcément vers le comics, mais du moins vers l'univers, parce que le support est encore toujours en train de mourir. Hein. Ça s'est pas arrêté, c'est toujours en train de mourir. Voilà.
En fait, on a un rythme de croisière. Disons que là, on a bien œuvré jusqu'à présent dans la BD. Donc, on s'est fixé un rythme d'une animation par trimestre. Là, il y en a une à prévoir courant de l'été. Donc, on n'a pas encore tous les plannings forcément des éditeurs, mais voilà, on va se caler là-dessus. Et après, maintenant, on essaye un peu de travailler en partenariat avec les cinémas d'Aix-en-Provence. Donc voilà, donc là on a des rencontres qui sont prévues et on espère que ça va aboutir sur des partenariats concernant des avant-premières ou des choses comme ça.
Vous allez faire venir Chris Hemsworth pour Thor 2?
On sait jamais.
Les Exos sont...
Ouais, c'est ça, j'allais te dire, là, les Exos, à mon avis, il y en aura beaucoup. Hein. Ouais, surtout ouais. Si tu fais ça pendant l'été, il a un peu chaud, il aura un petit débardeur, voilà, là, ça sera bon.
Mais du coup, vous êtes vraiment parti pour faire beaucoup de, enfin, quasiment que des rencontres. Il y a pas de, vous voulez pas construire un site internet qui.
La prochaine étape, c'est vraiment un site internet qui ressemble à un site internet, parce que là, pour l'instant, c'est vrai qu'on a qu'une page Facebook. Après, il y a un petit peu en termes de crédibilité aussi. Rester sur une page Facebook, bon, ça reste qu'une page Facebook, c'est bien pour la com, mais après, il nous faut une vraie structure derrière pour construire une vraie communauté. Il va nous falloir un site, voilà. Donc, on va aller piocher hein, dans les communautés existantes, chez Buzz, chez Super Hero, non, c'est pas Super Hero Hype, c'est Super Pouvoir, pardon. Et voilà, un vrai site derrière où on mettra les news, la suite d'actualité, tout ça.
Dans le trimestre qui arrive, il y a un site qui va émerger.
Le chantier, c'est le site internet.
Et là, vous avez d'autres séances de dédicaces qui sont en prévision pour l'année en cours, peut-être même pour plus tard.
Alors c'est prévu. En fait, des auteurs en dédicace, on va en faire venir deux par an au niveau de la BD. Voilà. Parce qu'après, comme on fait pas que de la BD, on est quand même aussi cinéma, séries, jeux vidéo. Voilà. Mais après, on a des projets. On veut faire des soirées projections. On voudrait faire des soirées, par exemple, projections de cinématiques de jeux vidéo. Voilà. On a plein d'idées à concrétiser. Voilà.
Et donc du coup là les soirées justement de projection, c'est ça le lien que vous voulez faire avec les cinémas d'Aix?
En fait on attend la rencontre, en fait cette semaine là on va les rencontrer et donc on va voir ce qui est du domaine du faisable ou pas. Voilà, pour l'instant on serait plus je pense sur animer les débuts des avant-premières. Et puis après, faire des avantages pour nos adhérents, puisque comme toute association, on a des adhérents. Et donc, on a la première vague d'adhésion a commencé à un moment des dédicaces avec Yannick Paquette, puisqu'on a fait gagner des lots, on a fait gagner des free sketch, en fait. Et donc, voilà. Et donc, après, on espère avoir des places à tarif réduit ou des places en avant-première, des choses comme ça. Voilà. Mais tout va être défini cette semaine. On ne sait pas trop encore ce qui est possible.
Et faire donc des projections d'anciens films ou faire des soirées, soirée spéciale thématique, trilogie complète
le bon plan vraiment d'arriver à organiser ça. Comme on est vraiment au début de toutes ces démarches, on découvre un peu le système, comment ça marche. Pas plus tard que la semaine dernière, on a eu l'idée de faire une soirée en projetant le dernier animé de Batman, le Dark Knight Returns, qu'ils ont fait en deux parties. On voulait faire la soirée avec la projection des deux parties. Les contacts avec Warner France c'était ça, mais bon apparemment c'est compliqué en termes de droits puisqu'ils ont les droits exclusifs que pour le home vidéo en fait en France. D'accord. Donc bon voilà, ça complique un peu les choses. Après là dans l'immédiat effectivement comme a dit Richard, c'est qu'on va rencontrer les gens qui s'occupent des cinémas avec soi, et là si ça se passe bien on aura déjà une porte d'entrée dans un cinéma. Donc après on va commencer par peut-être des conférences et des présentations, et pourquoi pas après effectivement pouvoir projeter une soirée trilogie, une soirée heptalogie, je sais pas, on peut se lancer dans un peu tout quoi, voilà.
Et si on veut devenir membre de l'asso, il faut aller sur la page Facebook, qu'est-ce qu'il faut faire?
Tu discutes avec nous là maintenant tout de suite et on te fait remplir un bulletin d'adhésion, voilà.
Ouais, pour l'instant c'est plus lors de nos événements et des rencontres qu'on peut faire voilà, et on a des supports papier. C'est vrai que pour l'instant on n'a pas mis ça encore en numérique sur le site, mais sur le site justement on va essayer de rendre ça possible.
Niveau budget, j'imagine que faire venir un auteur américain par exemple, ça doit pas être bon. Il y a des anglais encore hein, c'est plus facile, mais niveau budget vous avez commencé à chercher à avoir des subventions, vous avez des aides à gauche à droite ou c'est juste les adhérents qui vont vous aider?
Disons que là, comme l'association existe réellement depuis un mois, on n'est pas encore les subventions, c'est en septembre. Donc voilà, effectivement, on va essayer de passer par ce biais-là, mais voilà, pour l'instant, on n'a pas eu encore possibilité d'avoir recours à ça. Quoi.
Pour l'instant, c'est de nos poches. Quoi. Voilà, on a fait les avances de nos poches, on s'en est très bien sorti. Hein, pour l'instant, il faut dire ce qui est.
Ouais. Après, on a des partenaires hein, sur ces événements-là. Hein. Voilà, typiquement, ouais. Les dédicaces, ça s'est fait dans des librairies. Hein, donc, les librairies étaient bien heureuses d'avoir un auteur comme Yannick Paquette. Donc, du coup, elles ont participé financièrement.
Du coup, vous servez d'intermédiaire, notamment pour ces librairies. L'accueil auprès des libraires et l'accueil auprès des maisons d'édition, vous avez senti ça comment? Est-ce qu'ils sont plutôt très enjoués et ils ont très envie que ça fonctionne? Ou est-ce qu'ils sont un petit peu tièdes?
Les librairies sont tout à fait accueillent ça tout à fait avec grand plaisir. Hein. Elles sont très contentes de voir des gens motivés, des assos qui se bougent sur Aix. Donc ça, c'est tout à fait tout à fait intéressant. Après, au niveau des urbaines, Urban suit le mouvement, est content qu'il y ait des animations qui se passent là-dessus. Mais voilà, et après, ils savent que ça se fait quand même à une échelle, c'est la micro-événementielle. Donc, mais après, ils savent très bien quand même que c'est quelque chose qui leur permet quand même de toucher des publics spécifiques et que c'est, voilà. Donc, voilà, Urban nous suit positivement, mais voilà.
Ok, bah merci beaucoup. Donc, on peut vous retrouver sur votre page Facebook pour le moment. Donc, c'est French Geek Movement qu'il faut chercher. Et donc, vous avez votre conférence tout à l'heure sur Iron Man. Bah, je vous souhaite bon courage. J'espère qu'il y aura du monde.
Merci bien.
Voilà, à tous les amateurs de robots géants, de super-héros, venez sur la page de French Geek Movement.
Fin de festival, nous sommes avec les membres survivants du fanzine Anachronique. Annelise, Leila, Ibi et Silver. Bonsoir, ça va ?
Bonsoir.
Bonsoir, ça va ?
Non, ça va.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce que le fanzine Anachronique ? D'où vient ce fanzine ? Et comment est-ce que vous vous êtes retrouvés à bosser dans ce fanzine ? Qui va répondre ? Ibi encore ? On n'arrête pas d'entendre Ibi, mais pourquoi pas, hein ? C'est lui le vieux. Allez, vas-y Ibi, dis-le bien.
Ah, en plus, j'ai la pression. Alors, Anachronique, en fait, c'est un fanzine...
Ta-da-ta-da-ta-ta.
Bravo. Oui. Anachronique, en fait, on existe depuis maintenant 6 ou 7 ans, je ne me rappelle plus. 7 ans. À la toute base, en fait, ce sont des jeunes qui étaient aux Arts Mateliers, donc un atelier d'auteurs professionnels de bande dessinée de Marseille, et qui étaient élèves, en fait, à cet atelier, et qui, du coup, se sont trouvés ensemble. Et comme, ils avaient envie de faire de la BD, mais que le circuit éditorial était peut-être un peu trop élevé pour eux, ils se sont dit, on va s'entraîner et faire notre propre magazine. Et donc, à partir de là, le premier fanzine donc, a été créé grâce en fait, à des soutiens financiers de plusieurs structures de Marseille, dont La Passerelle, qui à l'époque était encore, en plus d'être un bar, une librairie BD. Et à partir de là, en fait, ils ont fait un numéro zéro qui était gratuit, qu'ils ont distribué dans les festivals du coin, style Aix-en-Provence et à l'époque Massilia BD. Et ils se sont fait insulter par tout le monde parce qu'ils faisaient des fanzines gratuits alors que tout le monde faisait des trucs payants. Mais malgré tout, ça les a fait connaître et du coup, les gens leur ont donné un peu d'argent aussi. Du coup, ils se sont lancés à faire le premier et ainsi de suite. Donc au début, c'est comme ça qu'est né le fanzine en fait. Et depuis, qui sont à la base du fanzine, il reste deux personnes, c'est Capitaine Lynn et Pastan.
Pastan vient de nous rejoindre, coucou Pastan.
Depuis 7 ans, l'équipe a pas mal tourné. Certains sont venus, d'autres partis, d'autres nous ont joints. Maintenant, les fanzines qu'on faisait en noir et blanc sont en couleur. Même si la parution maintenant est moins fréquente qu'au tout début, on continue à le faire parce que ça nous plaît. Et puis voilà quoi.
Vous êtes toujours élève du Zarmatelier ou vous en êtes totalement démarqué ?
En fait, le Zarmatelier a arrêté de donner des cours pour une question d'organisation, tout ça, c'était un peu compliqué. Et du coup, on a tous un peu continué à travailler ensemble quand même. Donc maintenant, on a un local pour Anachronique qui est chez Distant District, justement, même pas mal. Voilà. Et donc de temps en temps, certains auteurs se retrouvent là-bas pour travailler ensemble. Et après, c'est un peu chacun chez soi, comme on peut. Et puis, il y en a toujours qui tirent un peu les rênes en disant « allez, tu vas rendre tes planches, tout ça et tout pour... » pour arriver à faire un beau fanzine et essayer de le rendre en temps et en heure.
Maintenant, c'est vous qui donnez des cours, c'est ça ? J'ai vu ça.
Oui, on fait des ateliers en fait d'initiation à la BD et au manga, en partenariat avec l'association Art Media. Donc ça, c'est des cours qu'on fait toute l'année en fait, deux samedis par mois. Et ponctuellement, on donne aussi des ateliers à l'Alcazar l'été en général, donc la médiathèque de Marseille, dans les collèges et dans les lycées.
Là où on nous appelle, on vient.
Exactement.
Le fanzine, vous pensez que c'est un bon tremplin quand on veut travailler dans la BD ?
Oui, complètement. D'ailleurs, il y a plusieurs auteurs qui ont débuté dans Anachronique, qui sont maintenant auteurs professionnels. Dont Thomas Verguet, qui est sur Paris et qui a édité récemment Magellan. D'ailleurs, je ne sais plus chez qui c'est, Soleil ?
C'est chez Glénat, il me semble.
Glénat. Ouais. Chez Glénat, pardon. Et Anne-Lise Nalin, d'ailleurs, qui est avec nous et qui va sortir sa BD à la rentrée prochaine chez Delcourt, qui s'appelle Première Vendange. avec Vandril au scénario. Donc voilà, donc oui, effectivement, c'est un tremplin dans le sens où déjà, ça permet quand même de beaucoup s'entraîner, d'avoir des retours de lecteurs et aussi de rencontrer des auteurs professionnels dans les festivals qui nous donnent aussi des retours, ainsi de suite. Et puis bon, quelque part, ça nous prépare aussi aux contraintes de l'édition, à savoir rendre quelque chose de qualité dans un temps obligatoire, quoi. Et voilà, tout simplement.
Moi, je vous suis un peu depuis quelques années. Je vois que la qualité du fanzine s'est grandement améliorée. On voit qu'il y a vraiment une professionnalisation de plus en plus grande dans le fanzine. Est-ce que vous commencez maintenant à vous mettre vous-même, de dire « Ah là, ton truc, c'est mauvais, je le veux pas, refais-le
Ça... Bon, on n'est pas aussi... Ah bah tiens, Tristan, tu veux répondre ?
Allez, passe-t'en.
Du coup, c'est vrai qu'à la base, le fanzine, c'était vraiment pour... Ah oui. À la base, le fanzine, c'était vraiment pour se lâcher et avoir une liberté qu'on peut ne pas avoir sur d'autres travaux de commande. Mais c'est vrai que là, il commence à y avoir des exigences et il y a beaucoup de discussions et une plus grosse attente vis-à-vis du travail, surtout sur la couverture ou ce genre de choses où il y a pas mal de discussions et de... Ouais, d'exigence. Voilà.
À l'heure où maintenant les blogs sont devenus monnaie courante, où tout se fait en numérique, il y a toujours un attachement au papier. C'est important pour vous le papier ? Qui répond ?
Ouais, oui, pour la plupart de l'équipe c'est important, même si certains ont continué de nourrir leur blog fréquemment. C'est pas le cas de tout le monde, parce que la vie est dure. Mais oui, le support papier reste quelque chose qui nous tient à cœur. Peut-être parce que parce qu'on est habitué, nous aussi, on a été élevés avec de la BD papier. Et même si on n'est pas frileux pour aller vers du numérique, on tient vraiment à garder ce support-là et qui nous permet aussi d'avoir un public un peu plus qu'on rencontre pendant les festivals, tout ça et tout, et pas un public entre guillemets virtuel. Même si après on en rencontre aussi via Facebook, tout ça et tout, mais.
Pour le coup, la diffusion, c'est d'être un peu plus délicat. Comment on fait pour trouver Anachronique quand on habite, n'importe où en France, en Belgique, en Suisse
C'est un peu justement, c'est un peu notre point faible dans le sens où on a quelques points de vente surtout sur Marseille, là d'où on vient. Mais ouais, au niveau de la diffusion, il y a la possibilité de commander via Internet. Et en nous envoyant un chèque, par rapport à ce qui est commandé, mais c'est vrai que c'est un aspect qu'on n'a pas énormément développé, peut-être à tort justement, mais du coup voilà, c'est un peu compliqué, c'est vrai. Le fait d'être sur un support papier, c'est sûr que ça enlève cette liberté-là.
Les prochains projets pour l'association et le fanzine Anachronique ? Passe-temps.
Du coup, c'est vrai qu'il y a aussi peut-être un peu le format magazine qui nous intéresse et mettre... pas uniquement de la BD, mais privilégier aussi de l'illustration en illustrant des textes ou des articles sur les choses qu'on aime, qu'ils soient autour de la BD ou des arts visuels. Donc ça, c'est en projet encore.
Le tome 16 vient de sortir, à quand le 17 ?
On espère pour Angoulême quand même. Voilà, donc ouais, ça fait...
On va essayer au mieux d'en sortir un nouveau d'ici Angoulême.
Parce que ça fait un moment là qu'on est absent d'Angoulême, on aimerait bien y retourner avec le fanzine et pas juste à titre personnel. Donc c'est vrai que l'objectif là, avec déjà deux numéros en couleur, ce serait de leur montrer que non seulement on est toujours là, mais qu'en plus on a évolué. Et ils sont pas non plus insensibles à notre fanzine, donc on va essayer de revenir avec un numéro 17. Où justement il y aura sûrement cette nouvelle formule, parce qu'on est déjà en train de voir... De ramener des gens avec qui on a déjà travaillé, dont Silver qui est là sur ce numéro, sur le numéro 16, et Lorenzo, que je n'arrive jamais à dire son nom.
Mastroianni.
Merci, je suis désolée, et s'il m'entend, il va me tuer. Mais bon, voilà. Et Lorenzo, et qui est un super illustrateur, et voilà, on aimerait bien justement retravailler avec ces gens-là, donc on espère les avoir avec nous sur le numéro 17 avec cette nouvelle formule d'illustration.
Pour le coup, je crois que Silver et Lorenzo, ils ne sont pas marseillais. Donc ça rend pas un peu plus compliqué pour les échanges, pour voir quoi pour produire, etc.
Non, juste parce qu'il y a Internet, tout simplement, parce qu'au final, au moment où on peut toujours se parler, que ce soit sur Facebook, par Twitter, par mail, je veux dire, le résultat est le même, je veux dire, le résultat, oui, est complètement le même, parce que je peux leur envoyer mes planches dès que je les ai terminées, on en parle tout de suite, en plus, il y a le forum des discussions où chacun réagit aux dernières planches, aux mises à jour, sur les choix de couverture, tout ça, donc au final, non, ça, le fait d'être dans une autre ville, ça gêne absolument pas.
Oui, d'autant que déjà, même à la base, tous les membres d'Anachronique ne sont pas basés sur Marseille et ça ne nous empêche pas voilà, de continuer à bosser avec ceux qui sont installés à Paris ou dans d'autres villes. De toute façon, rien que dans le numéro 16, on a deux auteurs, ben, une qui est à Paris, l'autre qui est, il était à Albertville, je ne sais plus, voilà, quelque chose comme ça. Donc, donc c'est dans le sens où de toute façon, nos travaux de base sont traités numériquement, scannés et envoyés après par mail, la distance ne gêne pas dans ce cas-là.
Et des nouveaux membres pour Anachronique, comment est-ce qu'ils feraient pour présenter leur travail, pour peut-être essayer aussi de faire partie du fanzine?
La promotion canapé.
Oui, la promotion canapé, surtout avec un jeune homme qui est venu tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est là. Non, en fait, souvent, alors c'est marrant parce que souvent on rencontre entre guillemets les nouveaux parce qu'on ne les accepte pas toujours, mais en festival, ils viennent nous montrer leur travail. Mais généralement, oui, ils nous envoient ça par mail ou via le forum, ils nous envoient leur boulot. Et on est quand même une grosse équipe chez Anachronique et on n'a pas vraiment de dirigeant. Il n'y a personne qui dit moi, j'impose cette personne. Donc en fait, on décide suivant combien on est. Là, en ce moment, je crois qu'on est 12 ou 13 actuellement. Ouais. Donc si jamais il y a un nouveau qui veut se présenter, on sera 13 à décider s'il rentre ou pas. Voilà, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au plus on va être nombreux, au plus ça va être dur pour nous à gérer. Donc on est obligé d'avoir une exigence. Justement, on revient du coup sur la qualité, tout ça et tout. Et aussi, voilà, il y a des rapports humains qui doivent quand même se créer assez vite. Donc, généralement, on essaye quand même de faire quelques rencontres, au moins autour d'un café, comme ça a été le cas avec Anne-Lise et Soué quand elles sont rentrées. Et voilà, de voir si ça se passe bien aussi humainement, parce qu'on a déjà vécu des expériences pas top, voilà, pour ça. Donc,
chaque nouvel arrivant, c'est un vote collégial qui, enfin, tout se décide, en fait, enfin, tous les membres dans la chronique décident de tout, en fait.
Quoi qu'on fasse dans le fanzine ou dans l'association, on décide ensemble. Après, s'il y en a qui se prononcent pas, on fait sans eux, mais généralement tout le monde joue le jeu et tout le monde donne son avis.
Si vous êtes un nombre pair et que ça reste à 6-6, vous le départagez comment? Vous faites venir un nouveau membre, un membre ultime qui a deux voix?
C'est là que la promotion canapé prend tout son...
Ou alors voilà. On fait un battle royal et on voit le dernier qui reste debout et à ce moment-là, celui qui dessine.
Last man standing. Cool.
Ok, merci beaucoup. Et puis donc, Angoulême, les gens pourront sans doute vous y croiser. Voilà, merci à vous. Ciao, bonne soirée.
Merci. Au revoir.
À bientôt.
Au revoir.
Bonjour.
Bonjour. Alors, tu vas nous parler un peu du magnifique breuvage qui a été ramené, on ne sait pas par qui, mais c'est... Voilà.
Voilà, alors Sophie Capera, en direct du festival des Calanques et des Bulles. Je vais vous parler du proacte de Léa qui nous a ramené un cubi box de rosé gris, vin de France, de la centrale des vins. Donc elle a travaillé pendant un an pour nous récupérer ce vin qui est un vin rosé gris, couleur très méconnue, très rare. Belle robe, rose orangé, senteur très fruitée, à la fois de fraises, de lavande, c'est très provençal. Et donc je vous propose de le goûter et de me dire ce que vous en pensez.
Je l'ai déjà goûté en fait, merci.
Vos impressions?
Vas-y.
En fait, c'est un excellent vin de fin de soirée. Une fois que tu as 2 grammes, tu peux l'apprécier pleinement.
D'accord, donc les auteurs de BD apprécient les vins rosé gris. Vous pensez?
En fin de soirée seulement.
En fin de soirée, d'accord. Eh bien, c'était très intéressant. Je pense qu'un interview très constructif.
Merci beaucoup.
Je vous remercie d'avoir plaisir.
C'est moi la
technique. Il faut appuyer deux fois alors.
Une fois. T'as du mal à appuyer.
D'accord.
C'est moi la technique en fait.
Ah, je vois, c'est bien, vous avez une belle répartition de rôles.
Lui fait le café, voilà la technique et lui pose des questions.
Pas mal.